La rencontre aujourd'hui, c'est la fête, n'est-ce pas, comme vous le savez tous, de Sainte Marguerite Bourgeois. C'est la fête, oui, chez nous, de Sainte Marguerite Bourgeois. C'est la première sainte, si on peut dire, d'une façon un peu particulière, de la grande épopée française au Canada avant la conquête. Sainte Marguerite Bourgeois, elle nous est arrivée ici quelques années à peine, un peu plus de 10 ans après la fondation de Montréal. Je rappelle, la fondation de Montréal a eu lieu en 1642, puis elle arrive en 1653. Elle nous vient de Troyes, en Champagne, le pays de mes ancêtres et de bien d'autres Québécois comme moi, hein. Elle a été baptisée un vendredi saint, c'est quelque chose de curieux, hein, le 17 avril 1620, c'est le jour de sa naissance d'ailleurs. Elle était baptisée immédiatement à l'église Saint-Jean du au marché. C'était la sixième de 12 enfants qu'ont mis au monde Abraham Bourgeois et Guillemette Garnier. Alors évidemment qu'on la prénomme Marguerite comme on sait. Elle raconte, dès ma petite enfance, Dieu m'avait donné une inclination particulière pour rassembler les petites filles de mon âge, afin de nous grouper puis de travailler ensemble pour gagner notre vie. Alors, il y a déjà quelque chose qui pointe en elle là, d'une vocation d'éducatrice, ou à tout le moins de fondatrice ou de supérieure générale. Et pendant son adolescence, elle se montre plutôt coquette. Hein. Elle aime, c'est ce qu'elle écrit elle-même, à la fin de ses jours, parce que ça lui a été demandé d'écrire. Elle n'aimait pas tellement ça, mais elle l'a écrit quand même, sa vie. Elle aime les beaux atours, c'est ce qu'elle écrit, hein, les beaux atours, les robes de soie, les cols empesés, brodés de fines dentelles. Hein. Je la blâme pas parce que c'était beau ces costumes-là à cette époque-là, c'est mieux que les vêtements qu'on porte aujourd'hui. Enfin, Marguerite Bourgeois ne veut donc pas appartenir, si on peut dire, à celles que l'on a surnommées les bigotes, c'est pas son genre. En décembre 1638 ou janvier 1639, à 18 ans, elle a le malheur de perdre sa mère. Et il lui faut alors diriger la maison, puis aider à la formation de ses frères et sœurs plus jeunes. Puis elle apprend donc à se dévouer. Alors c'est un commencement, le dévouement. Et ça va l'amener à la sainteté. Un 7 octobre 1740, je vous rappelle, elle est née en 1620, donc un 7 octobre 1640, pardon, Marguerite Bourgeois a 20 ans. Elle participe, cierge en main, à une procession. J'allais, me raconte-t-elle, à la procession, puis on a traversé une rue, et on est repassé devant le portail de Notre-Dame, où il y a au-dessus de la porte une image de Pierre. Puis, en jetant la vue pour la regarder, je l'ai trouvée très belle. Et en même temps, je me suis trouvé si touché, si changé, que je ne me connaissais plus. En retournant à la maison, cela paraissait à tous. Hein. Et comme j'étais fort légère, j'étais la bienvenue avec les autres filles. Mais dès ce moment, je quittais toutes mes belles robes et je me suis retiré d'avec le monde pour me donner au service de Dieu. J'ai fait une confession. Et je me suis mis à être très fidèle. Alors, c'est une première conversion. Hein. Elle prend alors pour directeur spirituel un bon prêtre, un aumônier, l'aumônier d'un Carmel, M. Gendret. Elle songe à ce moment-là à entrer au Carmel, justement, mais on la refuse. Elle demande d'entrer chez les Clarisses, si c'est la même chose. Cependant, en 1643, M. Gendret, son aumônier, l'autorise à faire un vœu de chasteté perpétuelle, auquel elle va ajouter bientôt le vœu de pauvreté. Mais voici qu'un jour, c'est ce qu'elle raconte, ce bon père me parla du projet de faire une communauté pour honorer l'état de la Sainte Vierge dans sa vie voyagère. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la vie voyagère de la Sainte Vierge? On peut se demander cette question-là. Or, M. Gendret va le lui expliquer, puis elle le raconte. Voici ce qu'elle écrit. « Des trois états des filles que notre Seigneur a laissées après sa résurrection, me dit-il, je ne trouve que ceux de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marthe qui soient remplis. » Bon, il s'explique là-dessus. L'état de Sainte-Madeleine est rempli par les carmélites et les autres recluses, c'est-à-dire Marie-Madeleine, qui est au pied de Jésus, n'est-ce pas, dans la maison de Béthanie. Il la confond, enfin, Marie-Madeleine. C'est peut-être la même femme, d'ailleurs, Marie puis Madeleine, assise au pied de Jésus, qui l'écoute, pendant que Marthe fait autre chose. Il dit, celui de Sainte-Marthe, l'état de Sainte-Marthe, pour les religieuses cloîtrées, est rempli, là, et qui servent le prochain, comme les Ursulines, les hospitalières, qui étaient cloîtrées jusqu'à récemment, et qui servaient d'enseignantes ou d'hospitalières. Et M. Gendret ajoute, mais celui de la vie voyagère de la Sainte Vierge ne l'est pas. Il ajouta que sans clôture, sans voile, ni guimpe, on serait vraiment des religieuses. Bon, c'est un point de vue, hein. M. Gendret, lui, il imagine donc une communauté laïque, et le projet plaît beaucoup à Marguerite Bourgeois. Or, Dieu la favorise en même temps de faveurs assez particulières. Écoutez bien ça, c'est très spécial. C'est le 15 août 1650, alors qu'elle adore le Saint-Sacrement exposé, elle a la vision de Jésus enfant. Voici ce qu'elle écrit. « Il semblait avoir 3 ans et était si adorablement beau que désormais je me trouvais sevré, pour toujours, de toutes les beautés du monde, n'aspirant plus qu'aux splendeurs de l'invisible. Hein? » Elle n'aspire plus qu'aux splendeurs de l'invisible. C'est donc la conversion complète. Quand on n'aspire plus qu'aux splendeurs de l'invisible, qui éclaire tout le visible et qui transforme le visible, ben, c'est là qu'on comprend tout. Elle comprend tout. Or, en 1653, 33 ans, elle voit en songe Saint-François d'Assise. Ça fait beaucoup de songes, mais pourquoi pas? Elle voit Saint-François d'Assise et à côté de lui, un laïc habillé de brun. Et quelques jours plus tard, c'est tout de même fantastique, au parloir des sœurs, elle le reconnaît. C'est le chevalier de Maisonneuve. Et celui-ci lui demande de devenir maîtresse d'école à Ville-Marie, puis elle est très intéressée. Un matin, raconte-t-elle, étant bien éveillée, je vis devant moi une grande dame vêtue d'une robe blanche qui me dit, va, va, je ne t'abandonnerai pas. Ah, je connus que c'était la Sainte Vierge, quoique je ne vis point son visage, et cela me rassura tout à fait pour ce voyage et me donna beaucoup de courage. Si cela est de Dieu, se dit-elle encore, je n'ai que faire de rien porter pour mon voyage, si c'est la volonté de Dieu que j'aille à Ville-Marie. Je n'ai besoin d'aucune chose. Et c'est comme ça qu'elle va partir, hein, avec un seul petit paquet sous le bras. C'est extraordinaire. Le départ doit avoir lieu en février 1653. S'y prépare. Marguerite Bourgeois loge en attendant sur la recommandation de M. de Maisonneuve. Elle loge chez une pieuse femme, Mademoiselle de Bellevue, qui est scandalisée, elle, de la voir entreprendre une telle aventure, mais ce qui la choque le plus, ce qui choque le plus les gens, c'est de constater que cette fille de 33 ans, célibataire, va s'embarquer avec un jeune officier qui atteint la quarantaine. C'est plutôt osé, à cette époque surtout, où les femmes étaient toujours accompagnées de quelqu'un d'autre, jusqu'à tout récemment chez les religieuses. Hein? Alors, un peu hésitante, Marguerite Bourgeois quand même se reprend. Elle a retenu sa place dans le coche qui part pour Orléans. Elle est absolument convaincue que Dieu l'a vue au Canada. C'est décidé. Et tout le long du parcours, on s'étonne dans les hôtelleries de la voir, seule comme ça, sans compagne, comme une personne bien peu recommandable. Hein? Souvent, on veut pas même la loger. À Orléans, elle prend le bateau et fait réciter le chapelet à ses compagnons de voyage. Elle se rend à Nantes, là. À Nantes, elle reçoit des lettres pour la dissuader de partir. Même le confesseur auquel elle s'adresse à cet endroit lui conseille d'entrer chez les carmélites. Ça lui fait bien de la peine d'entendre ça, alors elle dit « J'allais toute triste aux Capucins, un couvent des Capucins qu'il y avait là, où le Saint-Sacrement était exposé. Et en un moment, toutes mes peines s'apaisèrent. Je reçus là une très grande force pour faire le voyage. » Êtes-vous déjà allé à une exposition du Saint-Sacrement quand vous avez des problèmes? Ça risque de vous arriver, probablement même. Enfin, le 20 juillet 1653, le bateau lève l'ancre, là. Il y a à bord 120 personnes à destination de Ville-Marie. Tout d'abord, M. de Maisonneuve et un autre officier, deux chirurgiens, entre guillemets. Enfin, vous allez voir, c'est pas des chirurgiens comme les nôtres d'aujourd'hui. puis l'ensemble de ceux qui émigrent vers le Canada, qui comprend des soldats et de futurs colons, qui représentent tous les corps de métier, il en faut, hein. Il y a également plusieurs couples, et aussi une petite orpheline, Marie Duménil, avec qui Marguerite Bourgeois commence sa tâche d'éducatrice déjà. Beaucoup de passagers souffrent du mal de mer, mais surtout la peste qui se déclare à bord du bateau. Alors, on compte 8 morts qui sont assistés à leur dernier moment, faute de prêtre, par Sainte Marguerite Bourgeois. La traversée de ce bateau de France au Canada dure 2 mois. C'était comme ça pour nos ancêtres. Monsieur de Maisonneuve ne cache pas à la future maîtresse d'école les difficultés qui l'attendent. Mes difficultés, vous pouvez vous imaginer, les longs hivers, on connaît ça, mais c'était bien plus long dans ce temps-là, dans un sens, parce qu'on pouvait pas se chauffer comme on peut aujourd'hui. Le danger d'incursion des sauvages, particulièrement des Iroquois. Mais, je dis des sauvages, c'est le mot à l'époque. Et on devrait dire les Amérindiens, ce serait plus poli. Mais il lui montre de même la vie quasi-monacale menée à Ville-Marie. C'est tout petit. Au début, certains critiquent les conversations entre Maisonneuve et Marguerite Bourgeois. Mais son dévouement pour les malades lui gagne la sympathie générale. Puis elle obtient même de faire réciter en commun les prières du matin et du soir. Puis elle fait aussi des causeries catéchétiques. Elle commence déjà, c'est déjà une sœur enseignante presque. Et enfin, on arrive à Québec, où l'on s'attend à un accueil plutôt froid. Mais au contraire, c'est l'enthousiasme, car peu auparavant, les gens de Ville-Marie ont remporté une victoire sur les Iroquois et ils les ont même obligés à négocier un échange de prisonniers puis une trêve, une petite paix. Alors on chante donc un Te Deum dans la joie générale. Et Marguerite Bourgeois est alors présentée à Jeanne Mance, qu'elle rencontre pour la première fois, à qui Maisonneuve a annoncé, d'ailleurs il lui avait dit à Jeanne Mance, « J'amène une excellente fille nommée Marguerite Bourgeois ». Personne de bon sens et de bon esprit. Vous avez compris ça? Personne, c'est une personne de bon sens et de bon esprit. Ça manque donc, ça. Et dont la vertu est un trésor. Elle sera d'un puissant secours au Montréal. C'est comme ça qu'il dit, au Montréal. Au reste, c'est encore un fruit de notre Champagne, la province de Champagne en France, qui semble vouloir, dit Maisonneuve, donner à ce lieu plus que toutes les autres provinces réunies ensemble. Je ne sais pas si je devrais répéter ça. Alors, à Montréal, Ville-Marie, qui a été fondée 11 ans auparavant, là, Maisonneuve renforce les défenses de cette petite ville. On y est arrivé le 16 novembre. Ce n'est encore qu'un village de 150 habitants, puis la rigueur du climat, de même que les privations, ont fait périr tous les enfants des colons, si bien que Marguerite Bourgeois ne pourra ouvrir son école que 4 ans plus tard. Alors, Marguerite Bourgeois arrive à Montréal, à Ville-Marie, un village, une petite ville de 150 habitants. Les enfants des colons sont morts, de froid ou je ne sais quoi. On peut compter parmi ces enfants-là peut-être des petits prud'hommes. J'ai une belle-sœur prud'homme, mais il y a aussi un prud'homme à Radio Ville-Marie, comme vous savez, qui le lundi à 4 heures nous explique les dernières parutions de livres religieux. C'est fort intéressant. Eh bien, ces gens-là descendent de Louis Prud'homme, qui était là au moment avant Marguerite Bourgeois à Montréal, oui. Et donc Marguerite Bourgeois va se borner à éduquer la petite Marie Duménil, vous savez, qui était à bord du bateau, la petite orpheline, là, et une autre enfant, Jeanne Loisel. C'est des noms québécois, ce Duménil, Loisel. Elle aide alors Jeanne Mance à son Hôtel-Dieu, puis elle pousse M. de Maisonneuve à relever la croix du Mont-Royal qui a été renversée par les Iroquois, la croix que Maisonneuve lui-même avait plantée. Je vous ai déjà raconté ça un jour. Puis elle oriente aussi ce jeune gouverneur Maisonneuve à garder par vœu le célibat. Alors, c'est pour lui une prise de décision de devenir un saint, pour ainsi dire, et il décide donc de renoncer à se présenter là, avec les insignes de sa dignité, puis ses décorations puis ses histoires inutiles, là. Puis il sort simplement en capot gris, comme tout le monde, comme les hommes ordinaires. Pour son premier Noël, 1653, passé à Ville-Marie, Sainte-Marguerite-Bourgeois organise un réveillon, tout de suite. pour tous les membres de la communauté, avec des beignets, des vieux Noël, des rigodons. Les sœurs continuent à faire ça, j'imagine. Ça dure depuis ce temps-là. Puis, malgré les réticences de quelques personnes qui trouvent le projet prématuré, là, elle pousse le gouverneur Maisonneuve à élever une chapelle sous le patronage de Notre-Dame de Bon Secours. Vous connaissez ça, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, qui vient d'être restaurée de façon absolument magnifique par les sœurs de la congrégation Notre-Dame, avec l'aide évidemment de spécialistes. En 1657, Maisonneuve, retournée en France, en ramène 4 sulpiciens et quelques colons. Les sulpiciens qui sont toujours là, à l'église Notre-Dame, au grand séminaire, c'est des quasi-fondateurs de Montréal, au fond, avec Maisonneuve, Jérôme Leroyer de la Dauversière, etc. C'est cette année-là, 1657, qu'elle reçoit une étable de pierre pour en faire une maison et établir une école. Alors, avec une compagne, Marguerite Picard, c'est là qu'elle entreprend son rôle d'éducatrice. Cependant, on s'en doute, tout se fait pas d'un seul coup, si bien qu'en 1658, elle repart pour la mère patrie, la France. D'abord pour accompagner Jeanne Mance qui est tombée sur la glace et qui s'est brisé le bras. Son bras, écoutez bien, mal remis, la laisse douloureusement infirme. Vous savez, je vous ai parlé des chirurgiens qui étaient venus, là, mais c'était pas des très bons chirurgiens. Ils l'ont mal remis, son bras brisé. Ensuite, Marie de Bourgeois veut trouver de nouvelles compagnes à Troyes, en Champagne, afin de l'aider dans son apostolat. Or, un miracle fantastique arrive. Jeanne Mance, écoutez bien, est subitement guérie en touchant le coffret contenant le cœur de Monsieur Jean-Jacques Ollier, dont je vous ai parlé le 2 avril 1997, pour ceux que ça intéresse. Jean-Jacques Ollier, c'est un très grand personnage. Comment se fait-il qu'il soit pas canonisé? Moi, ça me fait de la peine, dans un sens. Il est fondateur des Sulpiciens. Quant à Marguerite Bourgeois, accueillie par les religieuses qu'on appelait de Notre-Dame, c'est de là, peut-être, que vient le nom de notre congrégation Notre-Dame, hein, par imitation. Eh bien, comme elle est accueillie là, elle décrit clairement la vie rude qu'il faut mener à Ville-Marie, à Montréal. Alors, Catherine Crolo, 40 ans, qui y avait déjà pensé, décide là de l'accompagner. De même, 3 autres filles, malgré les difficultés opposées par leur famille. Puis le 29 juin, elles partent de La Rochelle, c'est le port, là, en France, hein, avec 2 nouveaux sulpiciens, 7 familles, quelques gentilshommes, des soldats, des colons, environ 200 personnes pour venir ici. La peste éclate de nouveau à bord de la puis la tempête se déchaîne, puis les morts se multiplient. C'est pas facile de traverser l'océan dans ce temps-là, hein? Et Mademoiselle Mance, Jeanne Mance, manque de mourir. Sœur Bourgeois, elle-même, elle est atteinte. Mais elle reste debout, elle est courageuse pour soigner les autres. Une famille entière succombe. C'est tragique, les parents et 3 fillettes, il ne reste qu'un bébé de quelques mois. Puis Marguerite le prend en charge. Elle est comme une maman. En arrivant à Québec, elle fait connaissance de Monseigneur de Laval, qui se dépense au service des malades. Le 29 septembre, Marguerite Bourgeois est de nouveau à Ville-Marie, enfin. Il est temps de faire repartir son œuvre parce que sa compagne, Mademoiselle Picard, s'est mariée. Imaginez. Alors, Marguerite Bourgeois et les nouvelles arrivées, là, organise alors une vie commune, et puis à l'école, on adjoint une garderie d'enfants. Déjà, oui, on parle déjà de garderie d'enfants. Hein? C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des garderies d'enfants à Montréal. Elle ouvre un ouvroir et une école ménagère, et Marguerite Bourgeois établit encore des missions ambulantes. Elle occupe aussi d'appareiller, comme on dit, des jeunes couples, hein, à marier, pour que ces unions se fassent comme il faut. Une espèce de préparation au mariage, si vous voulez. Mais c'est trop beau. Encore les Iroquois, oui, les Iroquois qui tentent de nouveau une attaque. Alors, vous connaissez l'histoire, un jeune lieutenant de Maisonneuve, de l'art des Ormeaux, que nous fêtons toujours au mois de mai, à la place de la reine Victoria, là. Eh bien, ce jeune lieutenant part à leur rencontre avec 16 jeunes Montréalais, de nos ancêtres. Mais trahis, ils sont tous massacrés. C'est le massacre du Lonceau. Cependant, ils ont pu mettre les ennemis en déroute. Mais quand même, sans arrêter, ces ennemis se cachent, ils s'approchent de Ville-Marie, ils se cachent dans les buissons. Ils harcèlent les colons. Combien de colons ils ont tués, à Montréal? Je vous donne un exemple. 2 prêtres et le secrétaire même de Maisonneuve sont ainsi tués. C'était pas facile. Et depuis, survient un tremblement de terre important que je vous ai déjà raconté. C'est le pire de notre histoire ici au Québec, un très gros tremblement de terre. Quant à Marguerite Bourgeois, elle redouble de ferveur et de pénitence. Et en 1660, Monseigneur de Laval visite Ville-Marie. Et dans la suite, il porte à Rome ce témoignage magnifique. Les maîtresses qui vaquent à Montréal à l'éducation des filles ne sont pas des religieuses. Ne sont pas des religieuses et ne font point de vœux, du moins publiquement. Toutefois, leur vie pieuse est une source de grande édification. En 1665, Louis XIV nomme lieutenant général de la Nouvelle-France le marquis de Tracy. Et alors, Maisonneuve, imaginez, c'est triste. Après 23 ans de dévouement, il est rappelé tout simplement en France et oublié, là, comme étant incapable de la place et du rang de gouverneur. Cet homme, qui a été sanctifié par Sainte Marguerite Bourgeois, eh bien, il accepte ce commandement qui vient de France. C'est ce que relate Sœur Morin. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans une émission. Cette Sœur Morin, j'ai lui consacré toute une émission. C'est notre première historienne, hein? Donc, Sœur Morin relate dans les annales de l'Hôtel-Dieu que Maisonneuve accepte comme un ordre de la volonté de Dieu, puis il repasse en France, non pour se plaindre, mais pour y vivre, petit et humble, comme un homme du commun. Ce qui aurait été de nature à attrister ou mettre en colère l'homme le plus modéré ne servait qu'à le réjouir à cause de son grand esprit de foi. Quel exemple pour moi. C'est extraordinaire, je trouve cet homme admirable. Une nouvelle phase commence pour la colonie, puis là, les nouveaux dirigeants amènent avec eux 500 colons et 1300 hommes de troupes. Et aussitôt, on va en finir avec les Iroquois. Alors, il y a des prières publiques avec des processions de reliques. Et le 14 septembre, 1300 Français passent à l'attaque, et après 2 mois, mais la paix règne enfin au Canada. Et comme va l'écrire plus tard, en 1669, Marie de l'Incarnation, au sujet des Iroquois, écoutez bien ça, c'est formidable, les Iroquois se sont rendus souples à notre sainte foi. Ils sont un grand peuple et un grand pays. Ils font baptiser tous leurs enfants et tous se rendent assidus à la prière et à l'instruction chrétienne. Formidable. Au printemps 1665, le vice-roi, le gouverneur et l'intendant général Talon visitent l'établissement de Sœur Bourgeois, puis en particulier les filles du roi qui sont des adolescentes, préparés à former des foyers chrétiens, là, c'est pas des femmes de vie, là. Et ils sont très satisfaits. Et Monseigneur de Laval autorise Sainte Marguerite Bourgeois à ouvrir partout des écoles dans son diocèse. Son diocèse qui couvre toute l'Amérique du Nord, hein. Et quant à elle, elle envisage toujours d'établir une congrégation de religieuses non cloîtrées vouées à l'éducation de la jeunesse. Et Monseigneur de Laval donne son approbation en 1669 et l'année suivante, en 1670, Marguerite Bourgeois retourne en France pour obtenir avec des recrues des lettres patentes, c'est comme ça qu'on appelle ça, là, de Louis XIV. Elle part dénuée de tout, mais heureusement un prêtre qui prend le même bateau qu'elle lui donne de l'argent pour qu'elle puisse se rendre à Paris. Et là, elle voit Monsieur de Maisonneuve, il la reçoit avec une très grande joie, puis l'encourage dans ses démarches qu'elle aura à faire. Puis là, elle obtient du roi lui-même ce qu'elle désire, et elle sera ensuite de nouveau à Troyes, où elle enrôle 3 de ses nièces, puis une bourguignonne et 4 parisiennes. Et Monseigneur de Laval, qui se trouve à ce moment à Paris, elle lui présente ses recrues, puis elle lui félicite pour leur décision vraiment courageuse de partir comme ça au loin, ces jeunes Françaises. J'espère que vous allez aimer aujourd'hui cette Sainte Marguerite Bourgeois, qui est une femme extraordinaire. Vous allez voir, de plus en plus, c'est une femme forte. Beaucoup diraient, c'est une grande féministe, dans le bon sens du terme. En tout cas, c'est une femme solide au grand courage. Elle est en France, là, puis elle reçoit un cadeau magnifique. C'est une statue miraculeuse, dit-on, de Notre-Dame de Montaigu, qui est destinée à la chapelle de Bon Secours. Je crois que cette statue se trouve toujours à Notre-Dame de Bon Secours. Pardon, c'est probablement celle qu'elle a obtenue du baron de Fancamp, de la Société Notre-Dame de Montréal. En tous les cas, c'est celle qu'on a encore et vraiment mignonne, vraiment une très charmante statue ancienne. Alors le retour se fait à travers l'océan, dans le calme. Mais des navires anglais sont aperçus à l'horizon. Le capitaine prend peur. Il craint de se faire attaquer par ces bateaux anglais. Alors il dit, ma sœur Bourgeois, mettez-vous en oraison, s'il vous plaît. Et c'est ce qu'elle fait. Marguerite Bourgeois est exaucée et les Anglais disparaissent comme par enchantement. Ah, si le bon Dieu pouvait faire toutes sortes de miracles comme ça encore aujourd'hui, ce serait merveilleux. Quand des fois des gens qu'on voudrait qu'ils ne soient pas là disparaissent. Hein? À la mi-octobre 1671, elle rentre à Montréal. Là, elle installe dans une grande maison sa congrégation grandissante. Et puis, Ville-Marie devient une cité importante, mais elle conserve sa vie spirituelle. Oui, c'est toujours une vie, une grande vie spirituelle. Je me souviens dans mon enfance, il y avait une très grande vie spirituelle à Montréal. Bah, si vous saviez, si les jeunes savaient ce qui se passait, c'est incroyable. Et quant à Sœur Bourgeois, bien, il lui faut former ses religieuses. Elle écrit, « Il m'a toujours paru qu'un certain esprit de petitesse, il faut comprendre, de simplicité, d'humilité, hein? Donc, un certain esprit de petitesse, de simplicité, de docilité, de pauvreté, de dégagement de toutes choses et d'abandon à la divine providence, donc, il m'a toujours paru que tout ça doit être le caractère et le vrai esprit de la congrégation de Notre-Dame. » En 1676, Monseigneur de Laval rédige un mandement qui érige la congrégation Notre-Dame en une maison religieuse canoniquement existante dans l'Église. De plus, on achève le sanctuaire de Notre-Dame de Bon Secours, qui vient d'être admirablement rénové en 1998, comme vous savez, hein? Tout le monde sait ça. C'est à visiter absolument, ça, dans le Vieux-Montréal. En 1677, Mère Bourgeois fonde un pensionnat à Montréal. Un pensionnat à Montréal. Je le dis pour les immigrants qui s'imaginent, sans connaître l'histoire de Montréal, ils ne savent pas ces choses. 1677. Hein? Puis des deuils cruels surviennent. Hein? En 1676, il y a eu la mort de M. de Maisonneuve, qui était oublié, qui est mort inconnu à Paris. Quelle tristesse! On sait même pas tout à fait où est son corps. Je crois qu'on l'a peut-être trouvé là, dernièrement. Puis à la mort de Jeanne Mance à 67 ans au mois de juin. Et ça l'affecte beaucoup, Mère Bourgeois. Les vocations canadiennes commencent à se multiplier. Et ça comprend, assez près du début de la congrégation, quelques Amérindiennes. Hein. Il y a eu des Amérindiennes aussi chez les Sœurs Grises et ailleurs. Cependant, dit la fondatrice, la Sainte Vierge est née de parents craignant Dieu et nous ne devons recevoir que des filles sages et honnêtes. Écoutez bien ça. Elle est très exigeante. Elle n'y va pas de main morte, Mère Bourgeois. Toute fille qui demande à être reçue doit se résoudre à quitter non seulement tous les principes et maximes du monde, mais encore à se quitter elle-même. À rompre son humeur, c'est-à-dire son tempérament, son caractère. À rompre son humeur, ses méchantes habitudes, ses inclinations. Elle doit se défaire de l'attachement à ses parents, à ses amis, à tout ce qui peut lui occuper et inutilement l'esprit. Je lui déclare qu'on pourra l'employer aux offices les plus bas et les plus contraires à son inclination. La mettre en mission avec une sœur chargée de la contrarier en tout, de la faire taire pour faire parler une petite fille, en un mot, de l'humilier et de la mortifier sans aucun ménagement. C'est pas ce qu'il faut vraiment faire, je pense. En tous les cas, c'est elle qui dit ça. Elle ajoute qu'elle fasse tout avec modestie, retenue et dévotion. C'est très bien, ça. Qu'elle mortifie ses sens. Voilà qui est bien. Qu'elle évite les entretiens qui ne sont pas nécessaires. Encore très bien. Et qu'elle tâche de marcher toujours en la présence de Dieu, ce qui est parfait. Monseigneur de Saint-Vallier, un homme un peu spécial, successeur de Monseigneur de Laval, souligne plus tard que dans la mission de la montagne, mais la mission de la montagne, ça c'est rue Sherbrooke, près du 2065 où est le grand séminaire, là, ou bien c'est au coin de Peel et Sherbrooke, ou bien c'est sur le sommet de la montagne, selon Aristide Beaugrand-Champagne, un architecte qui n'est pas parent avec moi, et un historien. Les sœurs tiennent une école d'environ 40 filles sauvages qu'on habille et qu'on élève à la française, dit Marguerite Bourgeois. D'où de nombreuses conversions. D'ailleurs, parmi les grandes converties, il y a Kateri Tekakwitha, la bienheureuse Kateri Tekakwitha qui vient à Montréal et qui rencontre Sainte Marguerite Bourgeois. Cependant, des dissensions existent dans la congrégation aussi. La fondatrice Sainte Marguerite Bourgeois se rend compte qu'il faut plutôt des règles écrites et approuvées pour solidifier tout ça. Alors, elle retourne donc une troisième fois en France. Imaginez ces longs voyages, sous prétexte de consulter diverses personnalités à propos des constitutions. Après avoir confié ses filles à la Sainte Vierge, elle s'embarque une dernière fois pour Paris en octobre 1679. Et la traversée est rapide, mais c'est éprouvant pour cette femme âgée et épuisée. Elle est bien décidée, d'ailleurs, à n'accepter aucune fusion avec une autre communauté, puis elle n'avait pas accepté des vœux solennels qui l'obligeraient à se cloîtrer et à former une autre sorte de vie religieuse. Après l'ascension, dit-elle, la Sainte Vierge, je vous rappelle que la Sainte Vierge est une veuve et sans enfant après l'ascension de son fils. Je vous en ai parlé hier, je vous l'ai expliqué. Alors, après l'ascension, la Sainte Vierge ne s'est pas cloîtrée dans son veuvage. Elle s'est contentée de la solitude du cœur, dit Marguerite Bourgeois. Comme elle a eu froid durant le voyage, Marguerite Bourgeois arrive malade à Paris. Elle prend contact, d'abord, avec Monseigneur de Laval, qui est là-bas. Mais celui-ci est accablé de soucis, puis il le reçoit d'une manière glaciale. C'est un peu surprenant pour un bienheureux, un futur bienheureux. « Pourquoi êtes-vous venu ? Vous désirez une constitution définitive, des règles approuvées, mais avez-vous la sagesse et l'expérience pour les établir? Allez d'abord vous instruire auprès d'autres congrégations. Quant à amener de France de nouvelles ouvrières pour votre institut, je vous le défends. » Il n'y va pas de même ordre. Et Mère Bourgeois accepte tout ça. Elle accepte les conseils de Monseigneur de Laval simplement. Elle consulte notamment les filles séculières de la Sainte Famille, dont la supérieure est une dame de Miramion. Et celle-ci, après avoir amendé les textes de la fondatrice, ben, elle en parle à Monseigneur de Laval, et lui, il la blâme de s'être mêlé de cette affaire. Il a mauvais caractère, mais qui examine toutefois le travail présenté. Le seul appui moral de Mère Bourgeois lui vient du successeur de M. Ollier, M. Tronson, qui la réconforte. T'es plein de jugement, M. Tronson, en dépit de tout ce qu'on pensait quand on était jeune. Après quoi, elle repart pour le Canada, où de jeunes Canadiennes, presque toutes ses anciennes élèves, se présentent pour aider postulante dans sa congrégation. Pourtant, à cause de ses charges grandissantes, puis par humilité, Sainte Marguerite Bourgeois veut donner sa démission et deux sœurs sont aptes à lui succéder. Il y a sa nièce d'abord, Marguerite Soumillard, puis il y a aussi Geneviève Durosé. Or, l'une et l'autre périssent en décembre 1683, dans un incendie qui détruit de fond en comble la maison des sœurs. Il y avait beaucoup d'incendies dans ce temps-là. Et Monseigneur de Laval, à court et devant la ruine de l'œuvre de Mère Bourgeois, il propose une fusion avec les Ursulines de Québec qui sont cloîtrées, elles, et enseignantes. Après des discussions, mais avec respect puis fermeté, Sainte Marguerite Bourgeois refuse. Rapidement, d'ailleurs, la maison se relève, on l'agrandit, puis les recrues affluent. Le pensionnat prospère également. Il reçoit comme pensionnaire Madeleine de Varennes. C'est qui, ce Madeleine de Varennes? C'est la fille du gouverneur de Trois-Rivières et qui va devenir, écoutez bien ça, un jour, la grand-mère de Sainte-Marie-Marguerite d'Youville, fondatrice des Sœurs Grises, qui est morte en 1771 après la conquête. Monseigneur de Saint-Vallier, le nouvel évêque, demande à la fondatrice de créer à Québec la Providence de la Sainte Famille, dont la direction est confiée à Sœur Barbier, qui va succéder à Mère Bourgeois. Dieu manifeste plusieurs fois son assistance à l'égard de la congrégation Notre-Dame. Ainsi, un jour, la provision de grains semble inépuisable. Là, les sœurs se demandent comment ça se fait qu'il y a toujours du grain. Alors, se rend compte que Sœur Marguerite Bourgeois prie souvent auprès de cette réserve de grains. Alors, on se décide à vérifier en pesant le grain. Ah, ah! Sainte Marguerite Bourgeois leur fait un petit reproche. Elle dit, « Mes sœurs, cette curiosité déplaira à Dieu notre Père, qui est aux cieux, et elle aboutira probablement qu'à mettre un terme à ses faveurs. » Elle a une manière superbe, d'ailleurs, de concevoir la vie religieuse. Elle fait la différence entre la règle de nécessité, là, tout extérieur, puis la règle de perfection qui vient du cœur. Des fois, il faut désobéir à la règle absolue parce que la charité s'impose. Elle aime aussi demander qu'on se méfie de la prudence humaine là, qui se mêle de tout, puis se cherche partout elle-même. Elle croit que les sœurs ne doivent posséder que la sagesse divine qui veut que l'on quitte tout, tout. Cette sagesse divine qui s'applique, dit-elle, à considérer la vie et les actions de la très sainte Vierge quand elle était sur la terre afin de l'imiter autant qu'il est possible. Alors, au cours des dernières années de sa vie à Montréal, une dernière épreuve va surgir, c'est terrible. C'est une sœur française, sœur Tardy, qui s'imagine avoir des révélations, elle s'imagine qu'il y a des anges du purgatoire qui lui apparaissent et tout ça, puis elle déclare que Sainte Marguerite Bourgeois est en état de péché mortel, et, mon Dieu, mais Mère Bourgeois est stupéfiée, accablée. Il y a des sulpiciens qui pensent que cette Française, sœur Tardy, a raison. Tout ça se rend auprès de Monseigneur de Saint-Vallier, qui se demande si les sulpiciens n'ont pas raison de croire tout ça. Alors, on se réfère à Monsieur Tronçon, qui, lui, est le supérieur des sulpiciens à Paris. Il voit là des visions imaginaires, des prophéties ridicules, des dessins extravagants, et il dit que tout ça ne tient pas debout, et il rétablit les choses. En septembre 1693, Mère Bourgeois, qui, à 73 ans, renouvelle avec insistance auprès de l'évêque son désir d'être déposé de sa charge. Alors, cette fois, Mgr Saint-Vallier accepte. Et Mère Bourgeois suggère le choix de Sœur Barbier comme supérieure générale. Et c'est cette dernière qui est élue, mais la question de l'approbation des règles n'est toujours pas résolue. Alors l'évêque déclare qu'il les a lui-même rédigées, puis calque ça sur les Ursulines qui sont cloîtrées, je vous le rappelle. Toute l'affaire, les vœux solennels, un vœu liant l'évêque, et il va même jusqu'à vouloir leur imposer les mêmes règles. Mais soutenues par Mère Bourgeois, les religieuses s'opposent à l'évêque. Puis finalement, Monseigneur de Saint-Vallier finit par accepter toutes les revendications de Sainte Marguerite Bourgeois comme règle définitive. Et le 25 juin 1698, ça a fait 100 ans, hein, récemment, eh bien, dans la chapelle, là, les sœurs, les premières sœurs de la congrégation, là, prononcent les premiers vœux simples. Et savez-vous que Sainte Marguerite Bourgeois a pris un nom de religion? Elle s'appelait Sœur Marguerite du Saint-Sacrement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, elle semble oubliée. Je vais vous raconter ça. C'est la misère noire. Hein? C'est triste, vraiment triste. Alors, qu'est-ce qui arrive à Sainte Marguerite Bourgeois? Elle n'est plus supérieure de sa communauté. Aujourd'hui, on dirait bergère, hein, dans les nouvelles communautés. Eh bien, on l'a élue comme ça pour lui faire... relativement pour lui faire plaisir, peut-être, je sais pas. On l'a élue conseillère, admonitrice. Mais on la met au courant de rien. C'est effrayant. Elle demande à instruire alors les tout-petits, les petits-petits-petits. On lui objecte alors qu'elle n'est pas au courant des nouvelles méthodes pédagogiques, et peut-être celles préconisées par Fénelon, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, toute une émission sur la formation des jeunes filles, hein? Selon l'esprit moderne de Fénelon, qui était très en avant son temps. Elle a fait sensation, cette émission-là, il y a quelques jours. Elle se propose, Sainte Marguerite Bourgeois, de s'occuper du matériel. Mais on n'a pas besoin de son aide non plus, même pas pour le matériel. Non seulement elle souffre de n'avoir absolument rien à faire, mais aussi elle souffre, et c'est bien plus, là, de certains relâchements dans la communauté. Ça commence déjà. Ah, les communautés, c'est pas facile de garder l'esprit du début, hein? Elle déclare, et c'est bouleversant, « Je ne sors presque pas de l'infirmerie. J'y couche et j'y prends mes repas à cause de mon grand âge, dit-on. Et pour tenir compagnie à ma sœur Crollo, qui ne peut plus aller au réfectoire. Écoutez bien ça, je ne parle plus à aucune de mes sœurs. Mais quelle tristesse épouvantable! Ça fait de la peine, hein? Cet abandon, où on la maintient, lui est évidemment épouvantablement cruel. Alors elle consulte un supérieur, puis un autre prêtre, qui tous deux l'engagent à parler de tout cela à la nouvelle supérieure Mère Barbier, qui va comprendre. Aussi, écrit-elle, de l'avis de ces messieurs, de ces prêtres, je me suis résolue à marquer par écrit ce qui me semble nécessaire. Et c'est comme ça que nous avons toutes ces précieuses notes biographiques qui nous renseignent sur la vie puis les intentions de cette grande sainte et qui nous racontent comment Dieu a fait naître et se développer cette congrégation admirable des sœurs de Notre-Dame, la congrégation Notre-Dame. C'est le dernier travail de la fondatrice, et après quoi, bien l'âme apaisée, elle se plonge dans la prière. Il y a une sœur hospitalière qui crie « La mère bourgeoise vit en odeur de sainteté, si humble, si rabaissée, qu'elle inspire l'amour de l'humilité seulement à la voir. » Je me permets de porter témoignage. J'ai fréquenté beaucoup pendant 2 ans leur hôpital. Elles ont un hôpital privé. Au métro Vendôme, là. Et puis, c'est difficile pour moi de parler ça, parce que j'ai tellement aimé certaines de ces sœurs-là, qui étaient comme ça, qui vivaient en odeur de sainteté, si humbles, si rabaissées. Elles m'ont inspiré l'amour de l'humilité, simplement à les voir. Alors, je vous assure, il faut voir ça. Hein. Mère Bourgeoise approche de ses 80 ans. La maladie, dit-elle, est un temps de grâce et de bénédiction. Lorsqu'on y est bien préparé, c'est un temps de récolte pour l'éternité. Elle a donc raison. Alors la fondatrice, Sainte Marguerite Bourgeoise, s'éteint après de grandes souffrances, comme vous avez pu voir, et bien d'autres, et des angoisses intérieures profondes. Oui, on meurt pas tous dans la joie, même les saints. Elle meurt donc le 12 janvier 1700. Et ses obsèques sont un triomphe de Marguerite Bourgeoise. On peut noter sa vie intérieure profonde, sa confiance inébranlable en Dieu, sa dévotion à l'Eucharistie, mais ce qui chez elle semble dominer jusqu'à un certain point. Après ses grandes dévotions profondes, c'est sa volonté de se modeler toujours sur la Sainte Vierge, la Vierge Marie, dont le regard transforme son âme lorsqu'elle a 20 ans, vous vous souvenez? La Sainte Vierge a aimé Dieu pour l'amour de lui-même. C'est ce qu'elle écrit. Hein? La Sainte Vierge a aimé Dieu pour l'amour de lui-même. Et son amour pour le prochain s'est accru de plus en plus. Et après avoir reçu tous ses avantages, elle s'est rendue petite, la Sainte Vierge. Alors, à ses filles, les sœurs de la congrégation, elles demandent donc de regarder la très sainte Vierge comme notre mère et notre modèle, d'étudier sa vie afin de marcher sur ses traces et de reproduire en nous ses vertus. Elle a été canonisée, Marguerite Bourgeoise, le 31 octobre 1982. Il y a eu de grandes fêtes à Montréal, j'y étais, c'était superbe. Et son tombeau, je crois, est toujours à la maison mère de Westmount. Hein? C'est très beau, son tombeau. Je sais qu'il avait été question de transporter sa tombe à l'église Notre-Dame de Bon Secours. Quelqu'un m'avait dit ça, mais je ne pense pas que ça se soit fait. Voici pour finir une prière de Sainte Marguerite Bourgeoise pour sa famille religieuse que peu à peu elle a rassemblée. Hein? En l'honneur de la Sainte Vierge. Ma bonne mère, je ne vous demande ni honneur ni plaisir en cette vie pour notre communauté. Je vous prie seulement de m'obtenir que Dieu y soit bien servi et que l'on n'y reçoive point ces filles d'un esprit orgueilleux et présomptueux qui ont le cœur dans le monde, qui sont médisantes ou railleuses, et qui n'étudie pas à pratiquer les maximes que notre Seigneur, votre divin Fils, nous a enseignées et que vous avez observées avec tant d'exactitude. Vous savez que sa spiritualité est si belle. Il y a un livre publié en grande partie sur sa spiritualité, puis il y a plusieurs livres d'ailleurs. C'est tellement beau à lire que c'est du Saint-François de Sales, presque. Elle dit, je pense ça dans le livre, là, « C'est ce que j'ai toujours le plus désiré, ce que je souhaite encore le plus ardemment, que le précepte de l'amour de Dieu, par-dessus toute chose, et du prochain comme soi-même, soit gravé dans tous les cœurs. » Elle dit aussi, « La règle de cette communauté et de tout le monde est celle que Dieu a donnée en créant le monde. » Écoutez bien, ça c'est magnifique. « Tu aimeras Dieu comme ton principe, ou là, celui qui t'a fait, comme ton principe, et ton prochain comme toi-même. » Cette parole a été entendue partout, car il est dit qu'il fera voler le feu jusqu'aux extrémités de la terre, que toute créature, ange, homme, brut, inanimé, diront en leur langage, « Ce n'est pas nous qui nous sommes faits. Dieu nous a donné l'être. » Et j'ajouterais que c'est Dieu qui nous conserve dans l'existence. Elle dit, « Ah, mes chères sœurs, faisons revivre parmi nous le vrai esprit de cordialité et d'amour qui faisait la gloire comme le bonheur du premier christianisme. » Je vous en ai parlé hier, le premier christianisme qui s'occupait des veuves. « Nous lisons, dit Marguerite Bourgeois, que les premiers chrétiens n'étaient tous en Dieu qu'un cœur et qu'une âme, qu'ils ne possédaient rien en particulier, mais que tous les biens étaient communs entre eux. C'est ainsi que la très sainte Vierge supérieure de cette première communauté, comme elle l'est aujourd'hui de la nôtre, formait ces heureux chrétiens. Et c'est aussi de même que nous devons être parfaitement unis ensemble dans la congrégation. » Elle dit que c'est la sainte Vierge qui a formé les premiers chrétiens, les disciples de Jésus. C'est ce que je vous ai raconté hier à la fin de mon émission sur les veuves. Ah, quelle sainte admirable! Quelle femme extraordinaire que Marguerite Bourgeois. J'ai toujours devant moi la relique de Marguerite Bourgeois que j'embrasse tous les jours avant de faire mon émission. Et aujourd'hui, à la messe, eh bien, il y a de belles prières en son honneur. Et je vous lis celle du milieu de la messe. « Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. » Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Amen.